Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry, Halou de Mouni. Chenni Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Fermeture d'école au centre du pays cette semaine, on en parlera. Célébration de la journée mondiale de lutte contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La presse malienne se mobilise pour les journalistes assassinés et ou disparus. Et enfin, la force G5 Sahel entame sa première opération au Mali. Nous recevons dans ce studio des journalistes pour débattre de ces sujets qui ont marqué, entre autres, l'actualité de la semaine. Paul Ben, journaliste indépendant, bonsoir.
Bonsoir.
Hawa Semega est de Kunafoni.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Mamadou Djadje Sako du DISAX de RFM. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Yeya Tandina de l'ORTM sera avec nous au téléphone. Je suis Aliou Sidibé. Je souhaite la bienvenue à nos confrères dans ce numéro du Forum de la presse.
Le grand dialogue.
L'école fondamentale du village de Nyinadou, dans le cercle de Mopti, et celle de Djamweli, située à 18 km de Gundaka, cercle de Banyangara, ont été contraintes de fermer les portes sous la menace des djihadistes. Les autorités scolaires se disent préoccupées par la situation et entendent tout mettre en œuvre pour ramener la sécurité afin de permettre aux élèves de poursuivre les cours. Alors, nous allons suivre ensemble ce papier de notre rédaction.
Des hommes armés non identifiés ont saccagé ce mercredi l'école fondamentale du village de Nyinadou de la commune de Fatoman, située à 25 km de Sévaré. Selon les autorités scolaires, ces individus ont saccagé le matériel scolaire avant de sommer le personnel scolaire à la fermeture de l'établissement et à l'abandon de l'enseignement classique qui est pour eux un enseignement croisé. Selon les mêmes sources, aucune victime humaine n'a été déplorée, mais toutefois, des téléphones portables et des motos ont été emportés par les assaillants. Les groupes terroristes ont aussi soumis de fermeture les écoles de la localité de Djamweli, située à 18 km de Gundaka dans le cercle de Banyangara. De nombreuses écoles ont été fermées cette année du fait de l'insécurité ou de l'absence de l'administration dans plusieurs zones de la région de Mopti. Cette situation s'est dégradée, selon certains observateurs, par la radicalisation des prêches et la multiplication des groupes terroristes dans ces localités. Selon une nouvelle estimation de l'UNICEF, près de 80 000 enfants, rien que dans cette région du centre, sont hors du système scolaire.
Awa Semega, quelles seront les conséquences de ces vagues de fermeture d'écoles dans la région de Mopti?
Bon, je pense que la première conséquence déjà, c'est la délinquance, hein. Parce que quand un enfant ne va pas à l'école, quand ils sont laissés à eux-mêmes, c'est clair que ça va amener à la dérive déjà. Déjà, les parents n'ont pas d'autres moyens d'orienter les enfants. Il n'y a pas d'autres activités génératrices de revenus sur lesquelles on puisse vraiment orienter ces enfants-là. Donc, je pense que le gouvernement doit vraiment tout faire pour parer rapidement à cette situation-là, parce que ça ne peut pas perdurer.
Paul Ben.
Oui, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. J'abonde dans le même sens que ma consoeur, en ajoutant que les localités que vous venez d'évoquer dans votre sujet tout à l'heure ne sont pas des localités qui sont très loin des axes principaux, par exemple la RN6. On parle de Nyinagou, de Djamweli, c'est presque au bord de la route, hein, c'est 5 km, 4 km de la route. Donc c'est pour vous dire que la situation elle est vraiment catastrophique, sécuritaire parlant. Moi je viens de quitter le nord il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de séjourner un peu derrière le fleuve à Mopti, c'est-à-dire étant au gouvernorat de Mopti, vous voyez un village qui est situé derrière le fleuve. Dès que vous traversez le village, dès que vous traversez le fleuve, vous n'êtes plus en République du Mali. Je veux dire, les lois qui sont en vigueur à Moptiville ou à Sévaré ne sont plus, c'est-à-dire quand vous traversez le fleuve. C'est très grave. C'est les gens qui se promènent avec des fouets. Ils ont sous leur boubou la calache, mais ils ont le fouet en main. Quand ils rencontrent les pauvres femmes qui sont en train de laver le linge au bord du fleuve, mais elles sont bien tabassées. Quand les femmes qui quittent le marché et ne sont pas voilées, elles sont tabassées. Bon, donc vraiment, moi je crois que la situation scolaire, elle est préoccupante. Okay. Si vous regardez un peu la bande, pour terminer, vous regardez un peu la bande, toute la bande qui quitte de Nioro du Sahel jusqu'à la frontière avec le Niger de l'autre côté, mais c'est le même problème.
Yaya Tandina, quelles sont les conséquences de ces vagues de fermeture d'écoles dans cette zone?
Bon, les conséquences, elles seront énormes, mais moi je crois qu'il n'y a pas eu de disposition préventive. Sinon, le cas similaire s'est passé ici courant année scolaire 2016-2017 dans le cercle de Niafenke. Malheureusement, les leçons devraient être tirées qui n'ont jamais été tirées. Sinon, on aurait dû prendre des dispositions afin que l'ouverture scolaire 2017-2018 soit une réussite. Mais c'est que moi je crains parce que pour nous, ce sont ces nouveaux élèves qui ne vont plus aller à l'école. Mais déjà dans la région de Tombouctou, vous pouvez compter à peu près plusieurs enfants, d'ailleurs, qui depuis 2012 n'ont pas été à l'école. Il m'a appris que le bruit de la calache, il m'a appris que le banditisme, le viol, voilà ce que. Alors c'est le même sort qui sera réservé à ces enfants qui n'iront pas à l'école également.
Ok. Et Mamadou Diadie Sako, à la fin de l'année scolaire passée, il y avait plus de 500 écoles qui étaient fermées. Et voilà encore, on en ajoute des écoles fermées. Alors quelles sont les conséquences selon vous?
Bon, moi j'aurais souhaité qu'on reformule la question. Les conséquences, elles sont connues. Je profite d'abord de l'occasion pour dire bonsoir à mon frère Tandina depuis Tombouctou. C'était de savoir d'abord qu'est-ce qui a été fait à la fermeture.
Oui, il y a eu d'autres émissions qui ont précédé sur ça.
Donc, qu'est-ce qui a été fait à l'ouverture, on nous a fait croire que tout va très bien. Oui. Et Tandina vient de nous faire croire, et si tout le monde le constate, que les conséquences quand même sont connues. Lui dit, il est dans le futur, moi aussi dans le présent, les conséquences sont là. Et ils sont en train de faire le même mode opératoire que Boko Haram, donc ils veulent interdire l'école. Donc c'est des nouveaux rebelles, c'est des nouveaux terroristes qui sont déjà formés. Mais et cependant, paradoxalement, à Bamako, on nous fait croire que l'école malienne, ça va. On appelle les gens de l'AIM, on leur distribue des véhicules, on fait ceci, on fait cela. Ça fait très mal, M. Sidibé. Vous voulez détruire un pays, il faut empêcher ces enfants d'aller à l'école. C'est un mécanisme de destruction du nord et du centre. Parce qu'il y a des enfants, c'est ces enfants-là qui n'iront pas à l'école. Demain après demain, c'est les futurs candidats au djihadisme et au terrorisme. Donc Boko Haram, pas d'école. Voilà.
Mais selon vous, des enfants qui ne vont pas à l'école, on a déclaré déjà dans le même temps qu'il y avait plus d'un million d'enfants quand même au Mali qui sont hors système scolaire. Et il y a des gens maintenant qui vont être débauchés de l'école. Alors quel sort pour ces enfants
dehors? Oui, il y en a deux catégories. Oui. C'est là qui ont été empêchés d'aller parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et c'est là qui sont terrorisés. Donc ça fait deux, le mode opératoire n'est pas le même. C'est connu, ça c'est un peu douce. C'est doux. Mais ça c'est avec la violence. Tu vas à l'école, on te fait croire qu'il ne faut jamais aller à l'école. Il faut que tu sois là.
Donc de force, on n'est même pas allé.
Allez, on t'apprend à manier les armes. Et on te fait croire qu'aller à l'école là, c'est haram, c'est grave, c'est très grave.
Je pense que pour les enfants qui sont hors des écoles, qui ne sont pas scolarisés, il faut déjà trouver un mécanisme, peut-être des centres de perfectionnement, des centres d'apprentissage, de métiers, de petits métiers, vraiment à les initier à cela afin que on puisse trouver une solution durable à cela.
Moi je disais que au-delà du constat qu'on fait, hein, que tout le monde fait, au fait des gens qui sont conscients de cela, comme il l'a dit, on nous fait croire à Bamako que ça va, on distribue les petits cadeaux pour des fins politiques, on ne sait pas. Et pour nous qui le savons, vous savez, la situation elle est très grave. Elle est très grave, hein. C'est les deux tiers du pays qui sont dans cette situation où on vous menace, on vous dit les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves, on vous donne des avertissements. Ça, ce n'est pas quelque chose. Moi, j'ai vécu cela. J'ai rencontré des parents d'élèves, on leur a dit dernier avertissement. Si votre enfant part à l'école, vous êtes responsable de ce qui va arriver. Ceux qui n'ont pas voulu accepter cette nouvelle loi ont été bastonnés. Et d'autres ont été contraints de quitter les villages. Et les gens ne se cachent pas. C'est-à-dire que ces terroristes-là, ces flagrants, ne se cachent pas. Ils se promènent dans le village en plein midi. Si vous allez appeler la gendarmerie, mais vous êtes foutus.
Okay. Mais en fait, il y a des analystes qui se sont prononcés. Ils ont dit que tout ceci, c'est dû au fait que l'État est absent dans cette zone. Alors, quand on sait que le convoi même du président de la Haute Cour de justice a été attaqué dans la zone, est-ce que vous pensez que vraiment la sécurité a une chance de s'y installer de sitôt au Sénégal?
C'est assez difficile. C'est vraiment difficile parce que quand on voit que ce soit avec les forces de sécurité maliennes ou les forces internationales qui sont présentes au Mali, finalement les populations ne savent plus à quel sens se vouer parce que ces forces de sécurité qui sont censées les protéger, ils sont eux-mêmes, on va dire, en quelque sorte vulnérables. Parce qu'ils sont tout le temps victimes d'attaques. Tous les jours, tu entends qu'il y a eu des militaires qui ont été tués quelque part ici. Donc finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et je pense vraiment qu'il faut solutionner. Il faut trouver une solution à ça. Et je pense qu'avec la venue de la force du G5 Sahel, j'estime que c'est une force personnellement de trop.
On va arriver au G5 Sahel. Okay. Oui. Mais Tandina, est-ce que la sécurité a une chance de s'installer de sitôt dans cette zone?
Bon, c'est difficile. Pratiquement, c'est difficile tout de suite. Mais dans le temps, à long terme, c'est possible. Mais pour le moment, en réalité, on ne voit aucun mécanisme qui a été mis en place capable de ramener cette sécurité tout de suite, alors que les populations en ont fortement besoin. Mais moi, je voudrais tout simplement relater ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le mode opératoire, que ce soit des bandits ou bien des djihadistes. Aujourd'hui, il y a un peu de confusion. Ce qui est sûr, nous savons que même les mouvements qui sont fusionnés n'ont pas les mêmes objectifs. Et quand vous prenez par exemple Nusrat al-Muslimin, c'est une fusion de groupes de djihadistes, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a des groupes qui ne sont pas pour l'école, par contre il y a des groupes qui sont d'accord pour l'éducation, mais une éducation aussi qui sera une touche avec l'arabe. Donc, comme ce fut le cas au niveau de la région de Tombouctou, à Goundam particulièrement, où on a vu l'apport de Hukawuka qui s'est engagé quand même à la réouverture de ses classes pour donner une chance aux enfants. Mais cette fois-ci, ces conditions qui ont été posées demandaient à ce qu'on approfondisse la langue arabe dans les cours. Donc vous voyez un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il faut enseigner, quels sont les cours qui seront dispensés, c'est la question, c'est toute la question.
Sako, la sécurité, ça pose problème vraiment dans cette zone qui se trouve même au centre du pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand même pour que la sécurité puisse avoir une chance de s'y installer?
Ça pose problème et ça va continuer à poser problème. D'abord, à la fin de l'année passée, les enseignants qui ont osé, qui ont risqué pour aller dans ces zones-là, n'ont demandé... Quand les autres demandaient des augmentations des salaires, des primes par-ci, par-là, c'est les enseignants qui ne demandaient que leur sécurité. Je me rappelle, j'étais à un de vos débats ici dans ce studio où on parlait de la sécurité des enseignants dans le Nord. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les gens veulent même qu'ils aient paix? On doit se poser cette question. Des enseignants qui sont là-bas, rien que pour transmettre le savoir, ils demandent à l'État central d'assurer leur sécurité. Rien n'a été fait pour assurer leur sécurité. Donc, il n'y a pas de volonté même qui est paix, qui est sécurité, qui est enseignement, qui est éducation. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc tout doit être mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Et mon confrère Paul Ben vient de dire tout de suite là, les zones où les attaques se passent là, c'est pratiquement sur la RN6. Aujourd'hui, vous avez, et ma consoeur tout à l'heure a parlé de l'attaque dont le président d'une institution a été victime. Or, on nous fait croire qu'aujourd'hui, tout est fin prêt, que c'est une guerre symétrique. Non, guerre symétrique, on est d'accord.
Cette institution même qui parlait de, tantôt
d'insécurité régionale. Bon, ça c'est un débat déjà clos. Ils vont tous faire les frais. Okay. Mais moi, j'aurais souhaité ce jour-là que c'est Manassa qui soit à sa place, non, lui, parce qu'au moins quand même lui, c'était pas trop prononcé là-dessus. Okay. Donc, pour revenir réellement à cette question de sécurité par rapport à l'éducation, on doit faire beaucoup les moyens pour que réellement ces enfants-là aillent à l'école. S'ils vont à l'école, s'ils ne vont pas à l'école, dans 2-3 ans, même 10 ans, il n'y aura plus de Mali. Hein.
Oui, moi, je vais rebondir rapidement. Je parcours les axes Bamako-Gao, souvent Bamako-Gao, Bamako-Tombouctou, Bamako-Gao-Menaka. Je les parcours souvent par route, quand on n'a pas les moyens de partir par avion. Et récemment, il y a 3 semaines, j'ai quitté Gao pour Bamako, par route, et j'étais très très écœuré de voir que quand vous à 20 km déjà de Gao, il n'y a pas d'école. Jusqu'à 80 km de Sévary. Il n'y a pas d'école, hein. C'est-à-dire le jour qu'il y a classe, les classes doivent être ouvertes, vous voyez les écoliers, mais il n'y a pas. Les écoles sont là, mais il n'y a pas d'école.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau pour le forum de la presse, le deuxième sujet qui nous réunit. Au Mali, les journalistes sont de plus en plus menacés et agressés. Cela fait 4 ans que les 2 journalistes de RFI ont été assassinés à Kidal. En 2015, le journaliste malien Birama Touré a disparu et on est toujours sans nouvelles de lui. Mercredi, au cours d'une conférence de presse, les journalistes sportifs maliens ont dénoncé plusieurs cas d'agression dont ils sont victimes. Et c'est dans ce contexte qu'a été célébrée la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes papiers.
Selon le porte-parole de l'association, Pierre-Yves Schneider, malgré l'identification et la neutralisation de certains suspects, d'autres seraient toujours en liberté. Le porte-parole estime que 2 ou 3 suspects seraient du côté de la frontière algérienne. L'association exige que ces suspects soient arrêtés, même s'ils sont en Algérie. Le 2 novembre 2013, en mission dans la ville de Kidal, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes à RFI, sont enlevés et tués par des hommes armés. Les enquêtes ouvertes par la justice malienne et française n'ont jamais abouti. Fin janvier, une enquête diffusée sur la chaîne France 2 avait accrédité pour la première fois l'hypothèse d'un lien entre ces assassinats et la libération des otages enlevés en 2010 à Arlit au Niger. Selon cette enquête, l'assassinat des 2 journalistes pourrait être une vengeance de kidnappeurs n'ayant pas reçu leur part de rançon. Mais cette piste n'a pas été jugée crédible par les enquêteurs français, une décision que les familles juge tout aussi décevante qu'arbitraire.
Ok, loin de nous vraiment l'idée quand même de privilégier un cas par rapport à l'autre. Hein. Mais Sénégal, est-ce à ce jour, que sait-on des enquêtes sur ces 2 cas dont on vient de parler?
Bon, déjà concernant les journalistes français, on ne sait pas grand-chose. C'est assez flou et j'estime que le fait qu'ils aient été enlevés immédiatement, liquidés, c'est pas du tout fréquent dans le mode opératoire de ces gens-là qu'on connaît. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Et il est fort probable, peut-être qu'ils savaient quelque chose à propos de, je sais pas, de la France ou quelque chose, en tout cas qu'ils avaient un secret qu'ils avaient découvert. Ils ont été liquidés ou il y a, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut en penser. Là, c'est pas du tout clair. Le cas Birama, il est très grave parce que j'estime qu'il n'y a pas suffisamment de recherche. à ce niveau-là. Je ne peux pas comprendre qu'après quoi, 2 ans, quelqu'un peut disparaître comme ça au Mali. On ne sait pas où il est, on n'a aucune trace. Et est-ce que les enquêtes se poursuivent réellement comme il le faut? Je pense que là, il y a vraiment des questions à se poser.
Ok. Tandina, qu'est-ce que vous savez de ces deux cas bien précis, le cas Ghislaine Dupont, Claude Verlon et le cas Birama Touré?
Tout d'abord, je voudrais saluer leur mémoire parce que c'est bien sûr ce 2 novembre, toute la presse qui a été endeuillée à travers le monde et particulièrement au Mali. Mais vous savez, moi, je voudrais tout simplement attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux menaces contre les journalistes et l'impunité. Moi, je voudrais dire, d'abord, nous avons remarqué, moi, j'ai plus peur en tant que journaliste, j'ai plus peur des régimes, c'est-à-dire du politique, ensuite des simples citoyens, qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les terroristes, djihadistes ou bandits. Parce qu'au moins, ceux-ci ont un peu de respect, au moins pour notre profession. Parce qu'ils connaissent déjà l'avantage, et ensuite, ils font tout pour nous protéger. Mais malheureusement, c'est les États, parce que là, les journalistes apportent des informations qui peut-être vont contrer le régime, et ça va les pousser souvent à faire de ces journalistes leur cible. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, l'impunité, c'est au niveau de ces politiques, il faudrait le revoir à ce niveau, sinon ce n'est pas au niveau des bandits ou bien des terroristes ou des djihadistes ou quel qu'en soit. Mais moi, j'ai plutôt peur aujourd'hui des régimes que même plutôt que de ces hommes armés. Mais le cas Ghislaine Dupont, en réalité, c'est une situation confuse parce qu'on ne parvient pas à nous donner de vrais éléments. Et je crois que la situation persiste. Sinon, aujourd'hui, la France dispose de tous les moyens pour nous dire comment est-ce que nos confrères ont été assassinés, qui sont les auteurs. Mais malheureusement, nous restons encore toujours sans suite.
Ok, Ben. Un cas de disparition et un cas d'assassinat. Alors, à ce jour, qu'est-ce que vous, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous savez quand même sur l'enquête de ces deux cas bien précis?
Oui, je commence par notre compatriote, évidemment, ça fait. Moi, quand je pense à lui, ça me fait froid. Moi qui fréquente souvent des zones à très haut risque. Mais comme Tandina l'a dit, moi j'ai plus peur des régimes. Non, des régimes en place. J'ai plus peur que des bandits que je côtoie souvent sur les routes où je passe. Parce que, vous savez, l'être humain, quand il a le pouvoir, est capable d'en abuser. Et quand il en abuse, c'est très mauvais. Donc moi, je ne comprends pas jusqu'à présent comment est-ce qu'on n'a pas pu faire des recherches. On n'est pas informé, il n'y a rien. C'est-à-dire, on dirait que bon, c'est un casus belli, quoi. Le monsieur, on l'a liquidé. Bon, on ne doit plus en parler. Et je ne vois même pas. La presse n'est pas mobilisée. La presse n'est pas mobilisée. On a combien de titres ici au Mali? On a combien de titres aujourd'hui? On a tellement de télépirates. Mais on peut faire du bruit là pour que les autorités bougent. On a des services de renseignement, on a la police scientifique, on a toute une batterie de structures qui peuvent rechercher par rapport à sa disparition. Maintenant, si je parle de Claude et Ghislaine, bon, moi personnellement j'ai suivi cette affaire. Il y a des choses que je garde pour moi. Il y a des informations que je garde pour moi par rapport à ce lieu. Non. Mais il y a d'autres que je veux.
Mais on a besoin que la lumière soit faite sur cette affaire.
Non, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Il y a des choses que
c'est vous qui le dites. Hein.
Non, je l'ai dit ici plusieurs fois sur ce même plateau. C'est une affaire d'État. Il y a des choses que je garde pour moi parce que j'ai eu la chance, 2 mois après leur assassinat, de passer la nuit.
Si j'étais le juge d'instruction, j'allais vous faire entendre.
Où est ce juge d'instruction? Justement, où est ce juge d'instruction? Où est ce juge d'instruction? On est en train de tourner en rond. La France et le Mali n'a pas le moyen. Le Mali n'est même pas à Kidal. Le Mali n'a pas les moyens, mais les Français sont à Kidal. Ils sont en train de nous faire tourner en rond pour nous faire croire que si, c'est là. Mais moi, je pose une seule question que je pose depuis leur assassinat. Ils ont fait une interview. Le monsieur chez qui ils sont sortis, la dernière interview qu'ils ont fait avant d'être... Ce monsieur, il est aujourd'hui très malade. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il est très malade à Kidal. Il est très malade. Il va mourir. Mais ils ont fait une interview. Où est la bande? Où est cette interview-là? Où est cette interview? Ces deux journalistes étaient partis à Kidal pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale quel est le deal qu'il y a entre la France.
On est en débat.
Pourquoi
celui qui leur a accordé l'interview est à Kidal.
Mais il est là,
vous êtes journaliste, vous avez la chance d'être en contact avec lui. Il fallait lui demander qu'est-ce que vous avez dit à nos confrères.
Mais je sais ce qu'il a dit.
Voilà, dites-nous-le.
Non, ça va.
Bon, on va continuer.
C'est des documents qui sont classés secrets.
Paul Ben, quand on sait que un doyen de la presse...
Je n'ai pas réagi par rapport à...
On va revenir à vous, il n'y a pas de problème. Il y a un doyen de la presse qui précise qu'il y a des dérives dans notre profession. Alors, qui est en cause dans ces cas maintenant pour pouvoir
régler? S'il y a la dérive dans notre profession, mais on a un État là. On est dans un État. Et l'État a les moyens de canaliser, de réguler notre profession. Okay. Et là, c'est moyen. On a un ministère de la communication. Mais qu'est-ce qui se fait, ce ministère de la communication, que de la propagande?
Okay. D'accord. Djadje Sako, alors, qu'est-ce que vous savez quand même de ces deux cas d'enquête? Est-ce qu'il n'y a même pas des enquêtes sur le cas Birama? Ou bien, que savez-vous de ces cas?
Ce que moi je sais d'abord de Justin et de Claude, si ce que Paul sait, si moi je le savais, ça trouvera que les enquêtes ont beaucoup avancé. Mais comme
mais on
lui,
m'a pas, on m'a jamais approché.
Mais comme vous le dites déjà,
oui,
que
on m'a jamais approché.
Paul Ben, pardon.
Moi, j'aimerais bien les partager avec vous sur ce plateau. Mais que cela ne tienne. Moi, je dirais aujourd'hui, et comme le disait l'adage, d'après ce que je viens d'entendre avec mon confrère, bien que la Ninina, c'est dans le dos, bien que la quand, ou bien que la Téye. Donc, classons cette affaire.
Revenons à la quête.
Oui, non, pas vous. Revenons à l'affaire Birama. Mm-hmm. Pour Birama, quand même, c'est très grave. Tantôt, vous parlez de mobilisation de retenue. C'est clair. Il y en a qui sont mobilisés pour la cause de Birama. Il y en a qui ont accepté d'émarger. Donc, il y aura les détendances. Ça, c'est clair et net. Sinon, comment vous pouvez comprendre, dans un état sérieux, on fait des révélations claires et nettes, comme quoi qu'il a été enlevé, séquestré, c'est hors de quelqu'un, pour Claude et pour Bernard. Et Ghislaine, oui. Il y a eu au moins quand même une ouverture, il y a eu une information jusqu'à présent. Bon, ouais. Peut-être que ça soit une fadisante ouverture d'information. Okay. Mais pour Birama, on est avec l'enquête. Aucun juge n'est saisi.
On ne sait rien.
C'est grave. Okay. Et ce qui est le plus important, vous ne pouvez pas être plus réaliste, madame, que le roi. La famille Touré, fondatrice de cette famille, n'en dit rien. Et c'est grave. Donc, on est dans une profession aujourd'hui qui nous menace et on est dans l'obligation de se protéger.
Mais il y a un comité de soutien quand même à Birama qui est en train de...
Quel comité de soutien? Tout de suite, là, Paul vient de le dire, vous ne voyez pas cette grande mobilisation. Mais ce que je n'ai pas aimé, il parle de télépirate. Parlons les médias aujourd'hui dans l'ère générale.
Bon, excusez-moi, on a plusieurs médias.
D'accord.
On a une kyrielle de médias avec lesquels on peut faire.
D'accord, sinon madame est même promotrice d'une chaîne de télé. D'accord, je disais que cette affaire de Birama doit être prise au sérieux. Et moi, je suis sérieux quand je parle de Birama. Et je continue à me faire trop de soucis. Je n'avais pas perdu d'espoir, mais depuis plus de 3 jours, il y a eu de ces révélations. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'auteur de Birama est connu. Ça n'a pas été démenti. Le juge ne s'est pas s'auto-saisi par rapport à cette affaire. Il n'y a pas eu de plainte. La famille Touré a appris que leur enfant a été enlevé, séquestré, sur instruction de telle personne. Okay. Et ils ont dit que c'est Karim Keïta. C'est pas moi qui l'ai dit, madame. Il y a des gens qui ont fait cette révélation. Et tout le monde l'a su. Ils ont dit que c'est Karim qui l'a enlevé. C'est Karim qui l'a séquestré sous son ordre. Et plus tard que ça, il y a un inspecteur de police qui est aujourd'hui en exil qui a fait des révélations aussi. C'est nos confrères de Jeune Afrique.
Oui, sur les
Donc, on est dans quel état? Vous voulez que des journalistes continuent leur boulot dans de telles situations? Donc, on risque d'être dans une situation de légitime défense. Vous parlez de régulation. Quelle est régulation? Tout le monde connaît, on connaît la loi sur la presse. Il y a la HAC. il y a le code, pénal, si nous prenons le délit de presse. C'est des journalistes qui sont persécutés. L'an 2017, ça a été une année de procès, de grands procès, des journalistes.
Certains disent que la presse va à la dérive. On va à la dérive.
Qu'est-ce qu'ils appellent dérive?
Peut-être que nos lois vont.
Non, mais qu'est-ce qu'ils appellent dérive?
Peut-être que nos lois, l'État même va à la dérive. C'est pourquoi la presse va à la dérive.
Maintenant, on va ordonner les choses. Alors, Awa Semega, quand le doyen, notamment Bomboté, qui a été interviewé par Studio Tamani, il dit quand même qu'il y a des dérives dans notre profession. Alors, le doigt est pointé vers qui maintenant pour pouvoir apporter les corrections?
Bomboté et Amadouzi, que nous, on est oui. Et ça, il faut qu'on le
dise. Vous n'avez pas la parole.
J'estime que le professeur Bomboté, il dit vrai. Parce que c'est clair, il faut reconnaître que dans notre métier, il y a vraiment beaucoup de nos confrères qui ne respectent pas du tout l'éthique et la déontologie journalistique qui régissent le métier de journaliste.
Ça quoi,
il y a vraiment des dérives, notamment que ce soit au niveau de certaines radios privées, que ce soit au niveau de certaines chaînes de télé, que ce soit au niveau de la presse écrite et les médias en ligne. Je pense que c'est à tous les niveaux. Il est extrêmement important que nous, journalistes, on prenne conscience et il est temps que nous fassions de vrais boulots de journalistes et qu'on ne se limite pas juste qu'à des animations et tout. Il faut être pointu. Quand on fait un travail, il faut vraiment faire un travail sérieux. Quand on apporte des accusations, il faut aller sur le terrain, vraiment se renseigner. Est-ce que ceci est vrai? Il faut des pour et des contre.
Mais quand on sait que sur le terrain également, ça devient dangereux. Le journalisme est-il une profession à risque?
Pardon,
Paul Ben.
Je vais ajouter, je vais tout juste...
Attendez, ce mec va terminer d'abord avec sa intervention.
Voilà, c'est clair. En fait, quand tu choisis d'être journaliste, tu choisis. C'est un métier que tu as choisi. Donc, c'est pour la vie, c'est pour la mort. Donc, tu prends les risques, ça va avec tous les risques. Donc, que ce soit que tu risques tous les jours ta vie. Donc, c'est extrêmement important quand tu fais un travail, tu le fais à fond et tu le fais très bien.
D'accord. Voilà. Paul Ben, rapidement, votre réaction en quelques secondes.
Oui, je disais que vous dites que le terrain devient dangereux. Non, moi, je crois que, comme elle a dit, quand vous êtes journaliste, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et l'information, ce n'est pas dans un bureau que vous l'avez, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, c'est pas à Bamako, c'est. Le Mali est très grand, il faut oser. Et il faut aller chercher la chance où elle est. C'est-à-dire aller sur le terrain pour avoir la vraie information, pas spéculer.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Retour donc sur ce plateau avec Paul Ben, journaliste indépendant, Awa Semega de Kunafoni.com, Mamadou Djadje Sako du Sax de RFM et Yeya Tandina pour la troisième et dernière partie. Je suis au regret quand même, peut-être Yeya Tandina va réagir par la suite. Donc, on entame la troisième et dernière partie. La force anti-djihadiste conjointe du G5 Sahel a entamé mercredi dernier ses premières opérations dans la zone transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'annonce a été faite par les responsables de la force militaire française Barkhane qui soutient les troupes africaines déployées au sol. Ces premières opérations concernent les bataillons du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Alors, Tandina, qu'est-ce qui va changer désormais dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme?
Absolument rien, parce que moi j'ai dit que le G5 Sahel n'est qu'une force de plus. Et j'en ai déjà participé à des patrouilles tripartites et même quadripartite. Donc pour moi, G5 Sahel, c'est toujours les mêmes pays, c'est les mêmes armes, c'est la même stratégie. La France est en haut, les Africains sont en bas, on fait des patrouilles, on fait des actions civiles ou militaires. Mais j'ai dit, c'est comme ça que je vois le G5. Pour moi, le G5 n'est qu'une force de plus. Et la preuve, hier et aujourd'hui, quel a été le résultat? Absolument rien. Donc franchement, moi je ne vois pas ce que le G5 pourrait apporter dans cette crise.
Un avis contraire sur ce plateau?
Non, pas du tout.
Je suis complètement d'accord.
Je le suis aveuglément.
D'accord. Donc, nous...
nous allons écouter quand même ce papier sur le financement du G5 Sahel.
Les États-Unis étaient réticents à contribuer au financement de la force conjointe du G5 Sahel. Mais hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, Washington a annoncé une aide bilatérale conséquente de 30 milliards de francs CFA à cette opération militaire formée par le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Selon le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, ces fonds vont renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face aux groupes djihadistes, État islamique et autres réseaux terroristes. Cependant, les Américains refusent que cet argent soit investi dans le circuit onusien. Paris et Bamako, qui souhaitaient obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, ont appelé les partenaires à jouer pleinement leur rôle en vue de la conférence des bailleurs du 14 décembre à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian de la France et Abdoulaye Diop du Mali, ont aussi plaidé pour une aide multilatérale qui offrirait un appui opérationnel et logistique pérenne à la force conjointe. Pour sa première année d'opération, les besoins de la force du G5 sont estimés à plus de 250 milliards de francs CFA dans un rapport de l'ONU. Seulement, 65 milliards de francs CFA avaient été levés avant l'annonce de la contribution américaine.
Ok, Paul Ben, voilà que les États-Unis décident enfin de mettre la main à la poche. Est-ce que le problème financier va être désormais résolu?
Non. Bon, moi, vous savez, dans ce genre d'exercice, les moyens ne vont jamais manquer. Parce que quand les forces internationales ont besoin de faire quelque chose, elles le font. Maintenant, la façon a changé. Parce que les Nations Unies, la plus grosse mafia du monde, voulaient que l'argent passe par eux. Voilà. Mais les États-Unis ont compris
pardon.
Que l'aménagement.
Oui, attendez, vous allez avoir la parole.
L'aménagement a déjà assez bouffé. Elle continuera à bouffer. Donc, ils vont le faire autrement. Ça c'est côté finance. Maintenant, côté tactique sur le terrain. Comme mon confrère Tandina l'a dit, franchement, moi, je crois que c'est un autre business qui est en train de venir. Parce que, regardez un peu Barkhane. Barkhane qui fait cette annonce. Nous sommes en l'air, les Africains sont à terre. Barkhane fait le grand écart sur 5 pays, avec 4300 hommes. Moi, je l'ai toujours dit, c'est du saupoudrage. Le G5 Sahel, c'est du saupoudrage. Je pensais que on allait investir dans chaque pays. Nous avons aujourd'hui 8 bataillons. Oui, bataillon, ça fait 3600 hommes. Je pensais qu'on allait doubler le nombre de nos bataillons pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme chez nous. Et on veut nous faire un peu de mishmash là, on va ajouter un peu de Burkinabé, un peu de Nigeria. Un peu. Tout le monde a des problèmes chez lui. Moi, je connais les trois États, Burkina, Mali, Niger. Au petit coin là, du Burkina, Mali, Niger, à la frontière, il y a un petit coin. C'est le coin le plus dangereux aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Les Iyad Agali, c'est là-bas où il a fondé sa coalition. Donc tout le monde a des problèmes. On a tapé les Américains au Niger la dernière fois. Le Mali, on en a tous les jours.
Est-ce que ce n'est même pas à cause de ça que les États-Unis se sont décidés?
Oui, je comprends. Maintenant, il faut qu'on renforce chacun chez lui pour qu'on puisse lutter. Celui qui est fort chez lui, qui calme le feu, il peut aller aider l'autre. Mais on a tous le feu chez nous. Et on veut nous faire une petite salade mixte. Okay. C'est pas possible.
D'accord. Sébéga, est-ce que le problème de financement est résolu désormais?
Bon, même s'il est résolu, là, moi, depuis le départ, je le disais, c'est pas, on peut pas être plus royaliste que le roi. C'est pas les autres qui vont venir faire notre truc à notre place. Hein. Déjà, il fallait, cette force-là, ils l'ont mise en place, je pense que c'est une force de trop. Ça n'aura pas vraiment d'impact, on va dire, positif, à mon sens, de mon point de vue. J'estime que les États devaient d'abord commencer eux-mêmes à mettre la main dans la pâte, à former leurs armées, à faire tout pour qu'ils soient renforcés.
Ils ne font pas
suffisamment. En fait, je pense que ce G5 Sahel là, c'est juste fait pour pouvoir avoir de l'argent et puis c'est tout quoi. Ça n'a pas de sens à mon point de vue.
Ok, Mamadou Diadji.
Mes confrères ont tellement de temps d'antenne de parole que plus que moi peut-être.
Diadji à 7 minutes, tandis que Tandina est à 4 minutes.
Non, oui, mais
oui, allons-y rapidement. Allons-y rapidement parce qu'on est coincé par le temps.
Ce que je dirais à Paul Ben, si parfaitement d'accord avec lui que réellement les États-Unis aient compris qu'il y a
un ministre de la Défense qui est Tienan Koulibaly, le connaissant très bien, n'ont pas voulu que l'argent passe par le circuit onusien. Bravo à Trump. Ils ont compris également qu'à la commission de défense du Mali, il y a un Karim Keïta, et que si l'argent également passait dans les mains de la France, c'était pour nous dire, en un mois, deux mois, on a mis 15 milliards dans la formation des Maliens, et on a mis 15 milliards dans... et c'est fini. C'est comme ça que la France se finance, et vous trouverez qu'à chaque fois que la France finance, elle court rapidement avec son réseau, sa mafia, et venir récupérer le même sou. Donc, pratiquement, on ne verra pas l'effet escompté du financement. Ça, c'est un. Deux. Moi, je l'ai tout le temps dit, 6 et 5 et sera opérationnel. C'est le moment de dire l'administration merci, Barkhane merci, et laisser les Africains, parce que pratiquement on trouve les mêmes personnes au sein de l'administration, au sein de V5. Donc vous allez dire à Barkhane, rentrez. Parce que vous êtes en train de laisser Barkhane évoluer d'elle-même comme ça, là, comme elle veut, et ça ne fait que nous créer des problèmes. Tout récemment, ils ont tiré sur combien de soldats maliens? Jusqu'à présent, la lumière n'est même pas faite. La France n'a jamais tiré sur leurs otages. Jamais. C'est les États-Unis qui négocient jamais les otages. Mais la France a tout le temps négocié les otages. Pourquoi tirer sur les soldats?
Non, la France a tiré sur les otages d'Areva. C'est fou.
Non, c'est pas avec qui? Oui. Parce qu'il y avait des Américains dedans.
Non. Pas du tout.
C'est la France. Yaya Tandina, on en vient quand même au cas sénégalais, parce que les Sénégalais, quand même, ils ne font pas partie de ce G5 Sahel et pourtant ils veulent en faire partie. Alors, que dire de ce cas?
C'est du gâteau. Tout le monde veut manger, là.
Oui, allez-y, Tandina.
Oui, c'est-à-dire le cas du Sénégal, c'est un cas spécifique parce que le Sénégal a déjà son dispositif mis en place. Maintenant, au niveau de la coordination, peut-être des officiers vont contribuer. Sinon, le Sénégal ne maîtrise pas le désert quand même du Mali, et ni le centre du Mali. À vrai dire, il fallait voir les pays qui étaient là à la reconquête du pays quand c'était occupé dans les mains des séparatistes et des djihadistes. C'était le Burkina qui était le premier pays. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, on n'a pas pu négocier l'Algérie à se mêler de la danse. Et quand nous savons déjà qu'une partie de l'Algérie qui fait frontière avec le Mali est formellement interdite à toute force étrangère, y compris le Mali, qui est un pays voisin. Donc, dans ces conditions, pour moi, c'est difficile de dire que nous allons engager un combat. Ça, c'est un. Et l'autre aspect, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est des moyens marous qui ont été mis à la disposition du G5. Et si ces moyens avaient été mis à la disposition seulement de ces pays, moi je suis sûr, connaissant leur localité, connaissant leur milieu, connaissant leur désert, connaissant le centre de leur pays, ces pays sont capables d'apporter un résultat plus qu'aujourd'hui, quand nous savons aujourd'hui que même l'opération est dirigée, malgré que Didier Dacko est là comme chef d'état-major, mais Didier Dacko reçoit des ordres quand même de la France. Et parce que même pour la mobilisation des ressources, il a fallu la France pour apporter la question au niveau du Conseil de sécurité. Donc nous restons toujours encore sous domination de la France, nous restons toujours encore sous les exigences de la France, et j'espère qu'on va toujours évoluer sous les ordres de la France. Alors c'est difficile pour nous de gagner la guerre.
Ok, c'est méga. De quoi a-t-on fait quand même de prendre le Sénégal quand même, de l'insérer au sein du G5 Sahel?
Bon. Le Sénégal, ils viendront certainement, ils viendront les jeunes, d'autant plus qu'ils sont, voisins, ils sont concernés également par la question du terrorisme et du djihadisme. Voilà.
Alors, oui, allez-y.
Non, moi je dis que bon, ça va venir petit à petit, hein. Il ne faut pas qu'on soit pressé. De toutes les façons, vous savez, c'est une course de longue haleine, c'est ce phénomène-là. Je souhaite que tout le monde, que tous les journalistes aient la chance de... C'est une chance, hein, de parcourir les zones du Nord comme je le fais à chaque fois. Ces gens ont une détermination. Nos militaires les appellent les Indiens. C'est-à-dire qu'ils ne finissent jamais. Vous les tuez, vous reverrez. Donc c'est une course de longue haleine et je sais que les gens viendront, mais il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit objectif dans tout ce qu'on fait. C'est un business, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent qu'on investit. Il ne faut pas que ça ne serve qu'à acheter des iPhones, des téléphones, des écouteurs. Il faut que ça aide à la lutte contre le terrorisme. Parce que le terroriste a une autre motivation que de défendre un pays. Sa motivation, c'est d'aller au paradis. Et aucun militaire n'a cette motivation.
Ok, d'accord, rapidement, Gaïe Sako, donc le cas sénégalais.
Les Sénégalais, ils seront là, parce que tout récemment, c'est Diongounda qui a invité le monde entier à venir se partager ce beau gâteau malien. Et c'est Diongounda vient d'être nommé par le Sénégal. Donc c'est là va de soi qu'on donne la part du Sénégal dans ce gâteau des essais.
Voilà. Ok. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Nous disons merci à Paul Ben, journaliste indépendant. Awa Semega de Kunafoni.com, Mamadou Djadje Sako du Sax de RFM, Yeya Tandina de l'ORTM. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahima Aran Diallo et mis en onde par Nuhun Djiré. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé à la présentation.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.